That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Regardez cette image, c'est la toute première fois que vous voyez un trou noir.
Rosetta, c'est le nom de cette sonde qui termine un voyage de 10 ans. L'engin de 32 mètres d'envergure va se mettre en orbite, sans doute en fin de matinée autour d'une comète, ce qui serait une première, et la sonde tentera d'y larguer un petit robot.
La tête dans les étoiles. Votre revue de presse en astronomie, une émission préparée, réalisée et présentée par Aurélien Housset.
Le robot Curiosity s'est posé sur Mars et part à l'attaque de la planète rouge.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission « La tête dans les étoiles » en ce mois de mars. Alors aujourd'hui dans notre télescope, nous aurons vu le Soleil avec cette question « À quoi sont dues les éruptions solaires ?» Nous parlerons des étoiles d'une manière générale avec cette question « Comment mesure-t-on la température d'une étoile ?» Et puis nous sommes au mois de mars, je ne pouvais pas vous parler de la planète Mars. Allez, un petit peu un jeu de mots. Eh bien, sachez que l'eau coulait bien sur Mars il y a 742 millions d'années. Nous verrons ça en fin d'émission. Mais sans plus tarder, eh bien, commençons ce nouveau numéro avec les éruptions solaires.
Il m'arrive parfois, car il est sans pareil. Il m'arrive parfois d'adorer le soleil.
Chers amis, à quoi sont dues les éruptions solaires ? Alors, aux intenses variations, tout simplement, de champs magnétiques qui se produisent à la surface de notre bon soleil. Le soleil est une étoile, et notre étoile est une immense boule de gaz ionisé qui génère constamment des boucles de champs magnétiques le long desquelles circulent particules et atomes. Ces gaz se déplacent aussi dans le Soleil. Ils perturbent alors ces champs qui se tordent, s'entremêlent, voire se rompent pour former de nouvelles boucles. C'est là qu'apparaît l'éruption solaire, un jet de matière et d'énergie. L'une des boucles peut en effet se tendre brutalement vers l'espace. Les ions qui la composent sont alors éjectés à des vitesses faramineuses de 100 à 2000 km par seconde, et s'ils atteignent l'atmosphère de notre planète, ils forment les aurores boréales. Alors dans le même temps, une deuxième boucle peut, elle, s'enfoncer dans le Soleil et engendrer un embrayancement, une tache dont la luminosité augmente violemment. Cela peut générer des forces électrostatiques qui propulsent des particules chargées à des vitesses proches de celles de la lumière. Les protons et électrons, ainsi accélérés, tout comme les rayonnements X, UV, gamma et radio générés, peuvent atteindre la Terre en quelques minutes et perturber nos systèmes électriques. Comment mesure-t-on la température d'une étoile ? C'est une très bonne question à laquelle répondait Science et Vie dans son édition de janvier dernier. Donc comment mesure-t-on la température d'une étoile ? Eh bien tout simplement grâce à son rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire en réalité la lumière que l'étoile émet, que l'on appelle aussi son spectre d'émission. Alors les astronomes mesurent cette donnée grâce à des télescopes munis d'un spectromètre, c'est-à-dire un appareil capable de séparer la lumière d'un astre dans toutes ses longueurs d'onde, pour en évaluer tout simplement les intensités. Alors de quoi remonter à la température, puisque la longueur d'onde où le rayonnement d'une étoile est le plus fort, lui est inversement proportionnel. Alors j'en reviens au Soleil. Le spectre du Soleil montre par exemple qu'il rayonne le plus aux alentours de 514 nanomètres, ce qui correspond à une température de 5504 degrés Celsius. Bien sûr, cette technique n'est pas parfaite, comme le souligne Science et Vie. Déjà, elle ne permet de détecter que la température de surface d'un astre. Ses profondeurs restent inaccessibles. Et elles deviennent de moins en moins fiables à mesure que les étoiles sont de plus en plus chaudes. Alors en tout cas, au-delà de 30 000 degrés Celsius, les couches externes des étoiles sont en effet balayées de vents stellaires violents, faussant là aussi toute tentative d'utilisation du spectre. La tête dans les étoiles. Chers amis, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission La tête dans les étoiles. C'était un morceau électro, un morceau techno, un coup de cœur personnel. C'était Irène Drezel. Irène Drezel qui, vous le savez peut-être, est l'unique femme jusqu'à ce jour qui a remporté un César de la meilleure musique originale. Alors chers amis, nous reprenons le fil de cette émission tout de même, et oui, avec cette nouvelle information, je prends ma petite fiche, la plus jeune planète jamais observée, elle a 3 millions d'années. Voilà, donc 3 millions, c'est l'âge de la plus jeune planète jamais observée, 1500 fois plus jeune que la Terre. Alors cette planète a été découverte par une astronome américaine, et cette géante, planète gravite autour d'une étoile naine à environ 430 années-lumière de nous dans une nurserie d'étoiles appelée nuage moléculaire du taureau. Alors l'observation d'un tel astre est rare, très rare, il faut le savoir. Les planètes restent souvent cachées derrière un voile de gaz et de poussière durant leur âge le plus tendre. Alors chers amis, à présent je vais vous parler de Pluton. Pluton et Charon, alors Charon c'est une lune de Pluton, qui se sont étreints avant de se séparer, c'est une information révélée ce mois-ci par la revue Science et Vie. Alors le couple Pluton-Charon, donc Charon qui est en fait la plus grande lune de Pluton, le plus grand satellite naturel de Pluton, orbite à la périphérie du système solaire, nous le savons. Alors comment ces deux mondes glacés en sont-ils venus à se lier et à tourner l'un autour de l'autre ? Eh bien, il est impossible que Charon soit simplement passé à proximité de Pluton et ait été happé par sa gravité, explique Alexandre Correa, astrophysicien à l'université de Coimbra, on est au Portugal, pour la revue Science et Vie. Alors il faut qu'une collision les ait freinés dans leur course. Or, aucune modélisation de l'événement ne réussissait à reproduire les caractéristiques de ce duo. Des planétologues de l'université d'Arizona, cette fois-ci on est aux États-Unis, y sont parvenus et en prenant en compte leur composition particulière de la roche et de la glace très cohésive, basée sur une collision rasante, leur simulation montre deux astres qui s'accolent, formant une sorte de bonhomme de neige, puis au terme d'environ 2 heures se séparent, s'installent en orbite rapprochée. C'est un scénario baptisé une embrassade et une capture. Car oui, il faut savoir, pour petite information supplémentaire, que Pluton est deux fois plus gros que Charon. Et donc oui, les deux astres se seraient touchés avant de former une paire inséparable.
Mademoiselle, je vous interpelle, c'est que je me rappelle plus de votre prénom. Mademoiselle, Armelle, Isabelle, Michel ou Annabelle, quel est votre prénom? Vous serviez dans ce restaurant, en porte-jartel, chemisier blanc, du côté de Saint-Germain. Il y avait là un chef de rang, un poisson rouge ragoûtant, je m'en rappelle bien. Je vous interpelle, c'est que je me rappelle plus de votre prénom. Mademoiselle, Armelle, Isabelle, Michel ou Annabelle, quel est votre prénom? Je venais dans ce restaurant tous les midis en espérant que vous me remarquiez. Mais ce satané chef de rang était jaloux comme un aimant, toujours à vos côtés. Je vous interpelle, c'est que je me rappelle plus de votre prénom. Mademoiselle, Armelle, Isabelle, Michel ou Annabelle, quel est votre prénom?
Bon allez, vas-y, zing. me rappelle de vos jambes de gazelle, votre jolie mini-jupe en dentelle, la couleur de votre pantartelle, mais pas de votre prénom. Je me rappelle de vos jambes de gazelle, votre jolie mini-jupe en dentelle, la couleur de votre pantartelle, mais pas de votre prénom. Mademoiselle,
mademoiselle,
je vous interpelle,
interpelle,
que je me rappelle,
je me rappelle,
plus de votre prénom,
plus de votre prénom.
Mademoiselle,
mademoiselle,
comme Elisabeth,
comme Elisabeth,
Michel ou Annabelle,
Michel Annabelle,
quel est votre prénom,
quel est votre prénom.
Mademoiselle,
mademoiselle,
si je vous interpelle,
interpelle,
ce que je me rappelle,
je me rappelle,
plus de votre prénom,
plus de votre prénom.
Mademoiselle,
mademoiselle,
comme Elisabeth,
comme Elisabeth,
Michel ou Annabelle,
Michel Annabelle,
quel est votre prénom.
Chers amis, vous êtes toujours à l'écoute de La Tête dans les Étoiles et nous avions La Tête dans la Musique avec Mademoiselle, un titre sympathique de Carpathes. Et nous étions revenus en 2002 avec cet album À l'ombre du ficus. Pour l'heure, nous reprenons le fil de notre émission et je vais à présent vous parler de mars, en ce mois de mars, et bien avec cet article paru dans la revue Science et Vie ce mois-ci. L'eau coulait sur Mars il y a 742 millions d'années. Alors c'est ce que révèle l'analyse de cette météorite retrouvée dans un tiroir de l'université Purdue, nous sommes aux États-Unis, en 1931. Alors nommé la Fayette, ce bout de Mars a été arraché à sa planète il y a 11 millions d'années à la suite d'une collision avec un astéroïde avant de trouver son chemin jusqu'à la Terre, d'être oublié, puis de récemment tomber dans les mains de Marissa Tremblay de la même université. Donc oui, un morceau de Mars retrouvé sur Terre suite à une collision sur Mars avec un astéroïde. Vous pouvez donc imaginer la violence du choc quand un astéroïde de taille conséquente percute une planète. Bref, l'analyse ne fait aucun doute. Comme elle dit pour Science et Vie, nous avons trouvé certains minéraux qui ne se forment que par réaction chimique en présence d'eau liquide, explique la chercheuse. Or sur Terre, nous les qualifierons d'argile. Leur distribution et composition chimique prouvent qu'il y a eu de l'eau liquide lors de leur formation sur Mars. Et les chercheurs ont alors daté l'événement à l'aide d'une méthode basée sur un isotope de l'argon, le argon 40, et verdict, ce bout de roche était en contact avec de l'eau martienne il y a 742 millions d'années. Chers amis, une dernière information pour aujourd'hui, et oui, car l'heure a tourné, et oui, le monde tourne, les planètes tournent, les lunes tournent. Qu'est-ce qui définit, eh bien justement, la vitesse d'une planète? Eh bien, tout dépend du référentiel. Et oui, la vitesse de rotation d'une planète sur elle-même s'établit au moment de sa création. Lors de la formation de notre système solaire, chaque grain de matière possède déjà, un moment angulaire, c'est-à-dire une rotation qui lui est propre. Alors en s'agglomérant, les moments angulaires de chaque particule s'additionnent et forment ensemble la vitesse globale de la planète. Puis cette vitesse de rotation évolue durant la vie de la planète via l'impact d'astéroïdes ou encore la distance par rapport à l'étoile. Alors les forces de marée exercées par l'astre modifient aussi en effet la vitesse de rotation des planètes proches. La vitesse orbitale d'une planète, elle, est déterminée par la masse de l'étoile autour de laquelle elle gravite ainsi que par la distance qui les sépare, selon les lois physiques de Kepler. Plus les deux astres sont proches, plus la force gravitationnelle exercée est forte et plus la planète orbite rapidement. Ainsi, dans notre système solaire, la vitesse des planètes à l'orbite à peu près circulaire peut être déterminée par une équation qui comprend notamment R, où R est la distance qui sépare les deux astres, et où par exemple M est la masse de l'étoile et G, la constante de gravitation. Celle de notre planète est d'environ 107 000 km par heure. Enfin, il faut savoir qu'à plus grande échelle, il ne faut pas oublier que le système solaire entier tourne autour du centre de la Voie lactée à 850 000 km par heure, tandis que la galaxie, elle, file droit vers Andromède, et oui, à 430 km/h. Pour ces échelles-là, d'autres phénomènes physiques semblent entrer en jeu, comme la fameuse et toujours mystérieuse matière noire. Chers amis, c'est sur cette information que se referme ce numéro de votre émission La tête dans les étoiles. J'espère que ce numéro vous a plu. Je tenais à vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité. Et puis, vous le savez, nous nous quittons pour mieux nous retrouver le mois prochain, même station, même heure. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut, salut. C'était La tête dans les étoiles. Une émission préparée et présentée par Aurélien Hossé.